mon pied.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans De Grains à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les enseignants ne doivent pas être les seuls mis en cause quand c'est le système qui est défaillant. À qui doit-on cette phrase ? À l'UNESCO qui vient tout juste de publier son rapport mondial de suivi sur l'éducation pour l'organisation onusienne. Pointer du doigt les enseignants pour leurs faibles résultats et pour leur absentéisme est à la fois injuste et contre-productif. Alors, si cette mise en garde s'adresse à l'ensemble de la communauté internationale, on imagine aisément les syndicats d'enseignants français se l'approprier. Les profs sont des cibles d'autant plus commodes que tout le monde a un avis sur leur façon d'enseigner. Le cadre dans lequel ils exercent est pourtant largement contraint. Il y a des programmes à respecter, des rythmes à suivre, des méthodes à appliquer. Le problème, c'est qu'il suffit qu'un ministre de l'Éducation soit remplacé par un autre pour que les règles changent. La dernière alternance de Najat Vallaud-Belkacem à Jean-Michel Blanquer en a fourni une excellente illustration. Ces changements fréquents semblent relever d'une approche de l'école à la fois très idéologisée et très verticale. Alors, l'école manque-t-elle de pragmatisme ? Eh bien, c'est la question que nous allons aborder ce soir en compagnie de deux invités. Isabelle Dignaucourt, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de lettres classiques. Vous enseignez dans un collège privé du Pas-de-Calais. Après avoir commencé votre carrière dans le primaire, vous avez fait quelques passages aussi en lycée. Et vous avez publié en cette rentrée un livre aux éditions du Rocher, « L'éducation nationale, une machine à broyer ». Pour discuter avec vous, Michel Lussault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, professeur à l'ENS de Lyon. Vous dirigez l'Institut français de l'éducation. Vous avez été président du Conseil supérieur des programmes de septembre 2014 à septembre 2017, poste que vous avez quitté il y a tout juste un mois. Et puis comme ce soir, c'est notre partenariat mensuel avec le journal La Croix, Guillaume Goubert est avec nous. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Hervé.
Directeur du journal La Croix, nous allons co-interviewer nos invités de ce soir. Je rappelle un peu le principe, on se retrouve chaque dernier jeudi du mois et on revient sur un des grands thèmes de l'actualité de ces dernières semaines. Alors Michel Lussault, je disais, il y a tout juste un mois que vous avez annoncé votre décision de quitter la présidence du Conseil supérieur des programmes. C'est un départ qui a fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous y attendiez. Bah, c'est peut-être d'ailleurs ma première question. Est-ce que vous imaginiez que cela aurait un tel retentissement, ce départ ?
Non, pas vraiment, dans la mesure où lorsqu'un président de Conseil supérieur des programmes part, le CSP est de surcroît une institution très jeune, et qu'il part en raison d'un désaccord flagrant avec le ministre en exercice, c'est un peu la lutte du pot de terre contre le pot de fer, et en général c'est le pot de terre qui casse. Donc je m'attendais...
Faut dire qu'avant de casser, hein, vous y êtes allé fort quand même, hein, sur France Inter, chez notre camarade Nicolas Demand.
J'ai manifesté le droit de chaque citoyen et de surcroît d'un fonctionnaire de la République qui, depuis maintenant plus de 30 ans, exerce le métier d'enseignant à différents niveaux du système éducatif, du collège jusqu'à l'enseignement supérieur. J'ai manifesté un droit, sinon d'inventaire, en tout cas de prise de position, parce que j'estimais et j'estime toujours que depuis plusieurs décennies, les vrais débats qui concernent l'école et qui devraient nous concerner tous, les vrais débats sont masqués dans la mesure où je pense qu'on ne parle pas de ce dont on devrait parler prioritairement, et ils sont masqués en raison du fait que, et la chose peut paraître curieuse, en vérité nous n'avons pas abordé un problème culturel et politique de fond qui est celui lié à la nécessité de répondre à une question simple: sommes-nous prêts à accepter toutes les conséquences et toutes les difficultés propres à cela? Sommes-nous prêts à accepter véritablement la démocratisation du système scolaire dans une société comme la société française de 2017, sommes-nous prêts à accepter cela en partant du principe qu'accepter cela, c'est nécessairement accepter également de repenser l'enseignement et les actes d'apprentissage.
Alors on va peut-être voir justement ce soir si cette question-là constitue un des points de clivage peut-être aujourd'hui par rapport à ce ceux qui pensent ce que doit être l'école. Mais Isabelle Dignocourt, juste pour continuer et terminer peut-être sur cet épisode du départ de Michel Lussault, j'imagine que ça, que vous l'avez observé ce moment-là. En plus, il y a eu la réponse du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, le lendemain, toujours sur France Inter. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a paru finalement un débat assez sain que de voir qu'on pouvait encore aujourd'hui batailler sur la question de l'école?
Ça m'a semblé un débat éminemment politique. Contrairement à ce qu'on veut dire, en fait, voilà, moi j'ai 26 ans de carrière, j'ai connu, c'est mon 14e ministre, fait un tous les deux ans hein, quand même, et j'ai constaté qu'effectivement le débat était éminemment politique, et politique pas dans le meilleur sens du terme. Je pense pas qu'on ait vraiment la priorité que ce soit les élèves en fait là-haut et les enseignants de terrain ont ce sentiment-là, c'est-à-dire que dès que ça arrive à un certain niveau de responsabilité dans l'éducation nationale, on oublie complètement le terrain, même si on l'a pratiqué pendant un moment, et on est dans effectivement des débats idéologiques. Profondément idéologiques.
Mais ça veut dire que dans ces débats-là, il y a deux conceptions radicalement différentes qui s'affrontent.
Oui.
Et lesquelles pour vous ?
Alors, lesquelles, c'est le constructivisme. La pédagogie du constructivisme, ça remonte à très loin, c'est l'enfant qui est au centre de ses apprentissages. Moi, j'ai démarré ma carrière juste après 1989, et effectivement, c'est la première fois qu'on voit cette thématique dans les textes dans la loi. J'avais 19-20 ans à l'époque, j'ai trouvé ça absolument formidable. Sauf que la deuxième partie de cette phrase, hein, c'était l'élève au centre de ses apprentissages, le terme apprentissage a complètement été oublié. Et aujourd'hui, on a des débats très très forts sur le fait que l'élève, dans le constructivisme, l'élève construit lui-même son savoir. Et on est un certain nombre de professeurs à considérer que c'est extrêmement compliqué de construire soi-même son savoir si on n'a pas quelqu'un qui est là pour guider.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette distinction, Michel Lussault?
Non,
dans quel camp vous mettriez alors?
Pas du tout, parce que je pense en fait que cette distinction n'existe pas. C'est-à-dire que je n'ai rencontré personne, et je précise que moi je n'ai pas de responsabilité au sein de l'éducation nationale. Je suis un universitaire, être président du Conseil supérieur des programmes, c'est une fonction, ce n'est pas une direction. Donc je n'ai pas de responsabilité, je n'avais pas de responsabilité décisionnaire, puisque le CSP se contentait de proposer les programmes au ministère. Donc je pense que ce débat est l'exemple type des faux débats. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse dire que l'élève construit seul ses savoirs. Jamais. Jamais. Aucun. Personne. Pas même les chercheurs en sciences de l'éducation que j'ai fréquentés à l'IFE jusqu'à mon départ de l'Institut français d'éducation, puisque je suis parti également il y a quelques mois. En revanche, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants-chercheurs et beaucoup de chercheurs et beaucoup de praticiens. Parce que l'intérêt d'être à l'Institut français d'éducation, c'est qu'on accueille plus de 2500 enseignants chaque année pour les formations en continu. J'ai rencontré beaucoup d'enseignants de tous les niveaux qui comprenaient ce que voulait dire placer l'élève au centre des apprentissages. Ça ne veut rien dire de plus que de prendre en considération l'importance de l'activité des élèves dans l'efficacité de l'apprentissage. Ce que d'ailleurs les sciences cognitives, si chères à notre ministre, viennent de confirmer. Donc pour moi, le débat entre pédagogue et républicain, entre pédagogiste, un mot qui ne signifie rien, et républicain, entre constructiviste et non constructiviste, entre savoir et compétence, pardonnez-moi, pour moi, c'est un faux débat. Dans la mesure où je ne connais pas une compétence qui ne soit pas en même temps un savoir, et je ne connais pas un savoir qui ne soit pas en même temps une compétence. Et donc la question que je pose, et que j'ai posée en partant du CSP d'une manière un peu bruyante, c'est pourquoi continuons-nous en permanence de nourrir ces faux débats? L'école vaut mieux que cela.
Bah peut-être qu'Isabelle Dignocourt en a rencontré de ces pédagogistes.
Oui. Mais moi, j'ai rencontré des formateurs qui m'ont dit et qui ont dit à des collègues, vous n'êtes plus là pour transmettre des connaissances et des savoirs, vous êtes là pour accompagner les élèves dans leur recherche de connaissances et de savoirs. C'est ça que j'explique. Au quotidien, ce sont des débats qu'on a, ce sont des formateurs qui nous le disent. Vous avez parlé de liberté pédagogique. Moi, j'ai eu un formateur dans la formation au collège, quand j'ai dit que je ne me retrouvais pas dans les pédagogies qu'on me demandait de mettre en place, que je ne me retrouvais pas dans cette réforme du collège, j'ai un formateur qui m'a dit « Mais Madame Dignocourt, vous êtes là pour fonctionner, vous êtes là pour appliquer les textes. Si ça ne vous plaît pas, vous démissionnez. »
Oui, mais madame, c'est un peu comme...
Et je ne suis pas la seule.
D'accord, mais moi je peux vous dire que...
Je ne présente pas mon témoignage comme un témoignage unique.
Je peux vous dire que vous généralisez par trop votre témoignage.
Non.
Ce témoignage est sans doute exact, mais comme dirait Michel Audiard, c'est un peu comme les poissons volants et la musique, les militaires. Ça existe, mais ce n'est pas le genre le plus courant. Donc, les formateurs qui vous disent cela sont des formateurs qui sont sans doute des cas isolés. Et de surcroît, j'aimerais attirer l'attention sur le fait qu'il y a un problème autour du mot de transmission. Ce que un certain nombre de chercheurs et un certain nombre de praticiens mettent en question dans une certaine pédagogie de la transmission, c'est justement l'idée que l'élève serait comme un vase qu'on peut remplir de connaissances. C'est ce qu'on appelle le modèle classique de la transmission. Cela, lorsque c'est dit, je le partage pleinement parce que je pense de facto qu'il faut sortir du modèle classique de la transmission qui d'ailleurs n'a jamais été aussi un modèle que cela. Quand on regarde le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, on s'aperçoit déjà qu'au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, il mettait en cause le modèle classique de la transmission. Ferdinand Buisson n'était ni constructiviste ni pédagogiste, il était simplement pédagogue. Si l'on dit que dès qu'on met en question ce modèle transmissif-là, on est constructiviste, alors on ne va plus pouvoir parler. Parce que de fait, on est simplement en train de dire qu'il faut mettre l'élève en activité. Mettre l'élève en activité, ça n'est pas renoncer à transmettre. Par ailleurs, la fonction de médiateur est une très belle fonction, y compris une très belle fonction d'enseignement, et depuis toujours. Alors pourquoi faudrait-il la dévaloriser ?
Alors on va justement essayer d'aller un petit peu au-delà de cette opposition réelle ou pas sur des questions idéologiques. Guillaume Goubert.
Alors, ce qui est frappant quand on lit les entretiens que vous avez accordés ce matin à La Croix, et je vous en remercie, c'est la question étant, l'école manque-t-elle de pragmatisme ? C'est que vos réponses sont finalement pas si éloignées que ça. Et je voudrais poser une question à tous les deux, finalement. Quelle doit être la part des programmes dans l'enseignement ? Plus exactement, comment articuler la part de programme minimal que j'imagine nécessaire avec la liberté pédagogique, Isabelle Dignocourt ?
C'est une bonne question, effectivement, que je me suis posée en lisant l'article. C'est vrai que les programmes devraient être beaucoup plus légers et plus adaptables. C'est ce qu'on réclame, nous, enseignants, depuis de très très nombreuses années. Et on se demande pourquoi ça n'a pas été fait précédemment. Il faut savoir que les derniers programmes, et là c'est pas mon témoignage puisque je n'enseigne plus dans le primaire, je l'ai enseigné dans le primaire seulement au tout début de carrière, je l'ai vécu d'ailleurs parce qu'effectivement j'ai vécu le passage aux compétences et j'ai vu ce que donnaient les programmes à ce moment-là. Et là c'est un témoignage d'un professeur des écoles qui explique qu'il a quand même fallu imprimer 400 pages des nouveaux programmes pour l'école primaire. 400 pages, et qu'il a fallu à l'inspectrice et à l'équipe plus de 30 heures pour lister les compétences qui primaient sur les connaissances. Donc seulement faire la liste effectivement des compétences et puis après on parle des connaissances. Et
donc là, sur la légèreté on n'y est pas, Isabelle Dignocourt. Par contre sur l'adaptabilité de ces programmes, ça c'est pas parce que les programmes sont épais qu'ils ne sont pas adaptables par les enseignants.
Alors adaptables de quelle manière justement? Parce que qu'est-ce qui est important dans ces programmes? C'est la question qu'on va nous poser. Nous, en face, on a aussi des parents. On a des inspecteurs. Alors, un inspecteur qui va venir inspecter va dire cette partie-là du programme, vous ne l'avez pas abordée. Pourtant, c'est essentiel. Parce qu'il aura, lui, parmi ses 400 pages, décidé que c'était cette partie-là qui était plus essentielle que l'autre. Des parents vont pouvoir tenir le même discours. Et puis, un élève qui va être en primaire dans un établissement donné, les parents vont avoir un emploi ailleurs, il va déménager, il y aura une partie du programme qu'il n'aura pas fait. C'est ce qu'on voit aussi au collège. Enfin, voilà, la question à se poser, quelle est l'utilité alors d'avoir 400 pages de nouveaux programmes, si on nous dit le programme n'est pas important, et puis on n'est pas obligé de tout faire, et puis on peut sélectionner et choisir.
Michel Lussault, même question, quelle articulation entre les programmes et la liberté pédagogique ?
Alors, concernant les programmes, bon, les 400 pages, c'est l'ensemble de la scolarité obligatoire, hein, c'est-à-dire du cours préparatoire à la troisième, toutes disciplines confondues, toutes les années. Hein, donc, ça fait quand même 9 ans de scolarité, c'est très lourd, c'est un peu logique, j'aurais préféré qu'ils fussent moins lourds, mais je dois dire que s'ils sont aussi lourds, c'est aussi parce que nous avons répondu aux demandes des syndicats enseignants. Donc, quand vous dites les enseignants sont contre cette lourdeur, vous devriez dire des enseignants, les enseignants dont vous recueillez le témoignage, mais pas tous les enseignants qui nous ont demandé que les programmes soient plus précis et plus lourds.
En même temps, la Croix, vous dites, Michel Lussault, hein, ça m'a frappé quand vous avez prononcé cette phrase il y a un instant, Isabelle Lignocourt, parce que vous aussi, vous le dites, les programmes devraient être beaucoup plus légers, plus adaptables.
Bien sûr, les programmes doivent être beaucoup plus légers, et maintenant que je ne suis plus président du Conseil supérieur des programmes, je peux dire d'ailleurs que je n'ai pas fait les programmes que j'aurais voulu faire, ils auraient été beaucoup plus sobres, mais nous sommes en permanence confrontés à des injonctions contradictoires. Et d'ailleurs, vous venez de nous le prouver encore, madame, en disant que à la fois les programmes sont trop lourds et en même temps en demandant que les programmes soient applicables de la même manière à tous les élèves en toute situation, même s'ils déménagent. Mais si l'on veut rentrer dans des programmes qui s'appliquent à toute situation pour tous les élèves de France, même s'ils déménagent, alors il faut des programmes extrêmement prescriptifs. Le problème de l'éducation nationale, c'est que nous multiplions les injonctions contradictoires. Les enseignants veulent de la liberté pédagogique et il faut qu'il l'ait. Et cette liberté pédagogique, je ne vois pas comment on pourrait d'un côté la réclamer et de l'autre côté dénier qu'elle passe par la possibilité d'adapter les programmes. Si l'on est libre pédagogiquement, ça veut dire qu'on est capable de prendre le programme non pas comme une injonction, mais de prendre le programme comme un corpus, un matériau de travail, qui est un matériau professionnel. Après tout, les enseignants seraient les seuls professionnels formés au niveau master, c'est quand même le niveau des ingénieurs en France, le niveau master. Ça serait les seuls professionnels qui refuseraient d'avoir des textes professionnels dont ils pourraient s'emparer pour les transformer dans une pratique.
Donc, est-ce que l'éducation nationale autorise cette pratique-là, cette approche-là,
écoutez,
Michel Lussault?
Moi, j'ai enseigné dans l'enseignement secondaire il y a évidemment quelques années, puisque c'était la décennie des années 80. Mais il se trouve que mes parents étaient enseignants et qu'ils ont enseigné dans les années 50. Il se trouve que l'ensemble de ma famille est enseignante et que mes ascendants, et que j'ai beaucoup discuté de ces questions-là. Les inspecteurs ont toujours existé. Ils étaient même sans doute beaucoup plus prescriptifs il y a 20 ou 30 ans qu'aujourd'hui. Soit dit en passant, si l'on considère qu'on est un cadre de l'éducation nationale, qu'on n'est pas dans une fonction d'exécution, mais dans une fonction de création, je ne vois pas, surtout dans la mesure où on est inspecté tous les 6 ou tous les 7 ans, parfois un peu plus en lycée ou en collège, je ne vois pas en quoi le froncement de sourcils d'un inspecteur pourrait remettre en question la liberté pédagogique. Que les enseignants s'emparent de cette liberté, je n'ai cessé de le répéter et je le répéterai encore.
Alors prenons votre cas peut-être particulier, Isabelle Lignocourt, je rappelle, vous êtes professeur de lettres classiques en collège. Est-ce que vous, dans votre pratique comme enseignante, il y a des prise de liberté, disons, par rapport au programme, ou est-ce que vous vous sentez contrainte d'appliquer strictement ce qu'il y a dans ces programmes? Comment est-ce que vous exercez votre liberté pédagogique?
Alors moi, je suis professeure de lettres classiques, donc je suis obligée de prendre des libertés avec le programme, puisque j'ai eu un merveilleux programme avec la réforme des collèges qui ne tient pas dans le volume horaire qu'on m'a laissé. Donc clairement, je suis obligée de prendre des libertés avec le programme.
Ça peut se traduire comment, par exemple? Juste pour qu'on soit aussi un peu concret, c'est-à-dire ça peut se traduire comment?
Mais ça veut dire que clairement, je ne vais pas jusqu'au bout de mon programme. Là, clairement, j'y vais pas jusqu'au bout. Là, j'ai testé parce que dans les programmes, on a découvert une aberration assez rapide sur les programmes de lettres, sur le basculement de la thématique par rapport à la chronologie. Donc, et on a pensé que ça pouvait créer problème pour les élèves. Moi, je suis partie, j'ai beaucoup moins de temps, donc je suis partie sur un TD cette année que je n'avais jamais pratiqué en latin, donc renouvellement de ma pédagogie, puisque là, on parle de pédagogie. Et j'ai voulu essayer la thématique, puisqu'on disait que c'était mieux, que maintenant, il valait mieux travailler de manière thématique que de manière chronologique. Et je suis au mois d'octobre et je me heurte à un gros souci. C'est que, par exemple, bon, je vais rentrer dans le détail, dans mon programme de troisième, au niveau de la thématique, on m'a proposé d'abord l'assassinat de César, la fin de la République, ça. Puis après, on est revenu sur le poids des mots plutôt que le poids de la violence. Et j'ai mes élèves qui font pas le lien entre l'assassinat de César qu'on a vu en début d'année et puis le discours de Cicéron et les Catilinaires qui ont lieu avant. Et je suis sans arrêt en train de revenir en me disant, mais non, c'était...
Donc vous allez revenir à l'approche chronologique.
Bah, évidemment.
Mais c'est donc que vous avez la possibilité de le faire.
Alors, dans les programmes tels qu'ils sont, moi, pour ma matière, j'ai la possibilité de le faire. Ce que je voudrais, c'est qu'on ne mélange pas non plus pédagogie et programme. Les programmes, de toute façon, on est obligé d'avoir une part de liberté pédagogique parce qu'ils sont tellement denses et tellement qu'effectivement, on fait le choix de choses qu'on fait ou pas.
Finalement, peut-être que pour la liberté, plus les programmes sont importants, plus ça donne de la liberté. C'est un peu une forme de paradoxe, Guillaume Goubert.
Dans les pratiques pédagogiques, ça devient un vrai souci où on nous dit de pratiquer de telle manière plutôt que de telle autre.
Je peux rajouter quelque chose là-dessus. Pardon, encore une fois, de vous contredire, mais je ne voudrais pas que ça soit systématique. Il se trouve que ces programmes sont nouveaux aussi dans leur écriture parce que justement, pour la première fois dans l'histoire des programmes, ces programmes ont été écrits non pas en fonction de l'activité des professeurs, mais en fonction de ce que les élèves doivent apprendre. C'est-à-dire, nous avons décidé de centrer les programmes sur ce que les élèves doivent apprendre. C'est comme ça qu'ils sont écrits. Donc, la partie activité des professeurs est très marginale. Et d'ailleurs, lorsque l'on est rentré ensuite, lorsque ces programmes ont été publiés dans la réflexion sur l'activité des professeurs, ce sont les corps d'inspection, et pas le Conseil supérieur des programmes, qui ont développé des ressources pour cela. Nous avons choisi de privilégier l'activité des élèves et l'apprentissage des élèves. C'est d'ailleurs pour ça que chaque enseignement est précédé d'un tableau d'acquisition nécessaire des élèves en termes de savoir et en termes de compétences pour les 3 années de chaque cycle. Et c'est d'ailleurs cela qui, à notre sens, doit permettre de régler ce problème toujours angoissant pour les professeurs qui est de savoir est-ce que je vais finir ou pas le programme. Finir ou pas le programme, pour moi, c'est une fausse question. Ce qu'il faut considérer, c'est que le programme n'est pas une finalité. Le programme est un moyen pour permettre aux élèves d'apprendre.
Ça veut donc que quand je suis parent d'élève, moi, j'ai quand même envie que mon enfant termine le programme.
Non, parce que vous avez envie que votre enfant termine le programme si on ne vous a pas expliqué ce que l'on allait apprendre à votre enfant. Là, beaucoup de systèmes qui réussissent mieux que le nôtre. Même si l'école française continue de former souvent de bons élèves. Beaucoup de systèmes qui réussissent mieux que le nôtre sont des systèmes où le modèle purement transmissif à l'ancienne n'est plus appliqué, où les savoirs et les compétences ne sont pas opposés et où, en général, l'activité des professeurs est beaucoup plus collective qu'en France et où, en général, l'explication aux parents de ce que les activités visent est beaucoup plus importante. Nous avons une école qui peut progresser dans tous ces domaines-là. La seule chose que je mets en avant en disant cela, c'est l'existence de marges de progrès qui ne supposent pas une révolution, qui ne supposent pas une nouvelle réforme ou un bouleversement total, puisque tout ça peut être réalisé aujourd'hui dans les établissements et est déjà réalisé dans de très nombreux établissements.
Guillaume Goubert.
Je voudrais poser une question à Michel Lussault sur ce sentiment d'instabilité qui est ressenti par beaucoup d'acteurs de l'éducation, que ce soit les parents, les enseignants, etc. On a l'impression que ça change tout le temps. Qu'est-ce que vous répondez à ce sentiment? Est-ce que vous le considérez comme fondé ou est-ce que c'est qu'on n'a pas bien compris?
Mais je pense que ce sentiment est tout à fait fondé. D'ailleurs, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Dans la mesure où, quand on regarde depuis 1950, le nombre de réformes a été absolument phénoménal. Et on n'a pas attendu ces 10 dernières années pour que les réformes se succèdent. Je crois que ce sentiment est fondé. Je pense que cette course à l'échalote en permanence pour les nouveaux programmes ou pour les réformes de structure ou pour les réformes de la formation professionnelle vient du fait qu'encore une fois, nous n'avons pas assez de débats véritablement politiques sur l'école et sur sa finalité et nous avons trop de débats idéologiques sur l'école. C'est pour ça que je refuse de rentrer dans ces débats sur constructivisme, pas constructivisme, etc., pédagogiste, républicain, parce que pour moi, ce sont des débats idéologiques. Nous n'avons pas, en revanche, assez de débats culturels et politiques sur l'école, parce que, au fait, nous ne savons pas aujourd'hui quel modèle d'école nous voulons. C'est-à-dire, globalement, cette problématique de l'école inclusive, c'est-à-dire l'école pour tous ou l'école pour former les élites. Cette problématique, elle reste une problématique importante. Et j'en veux pour preuve que ce qu'on m'a reproché très souvent en tant que président du Conseil supérieur des programmes, et reproché est un mot faible, c'est de vouloir brader le niveau des bons élèves au motif de vouloir faire réussir tous les élèves. Ça prouve que cette question n'est pas réglée. Et je pense aussi qu'il faudrait arrêter que les acteurs politiques considèrent que l'école est un domaine où on peut, à peu de frais, se donner une certaine grandeur et se donner l'illusion qu'on est capable d'agir de façon très volontariste.
C'est peut-être d'ailleurs justement cette illusion que quand on passe par le ministère de l'Éducation nationale et qu'il y a la volonté de marquer son passage en faisant une réforme qui provoque de l'instabilité. Comment est-ce que vous la vivez, cette instabilité, Isabelle Dignocourt? Quel impact ça a pu avoir sur votre façon d'aborder votre manière d'enseigner?
Moi, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le sentiment que dès qu'on arrive à un certain niveau, l'intérêt premier des élèves, pour moi, n'est absolument plus pris en compte. Je vais répondre à la question, on ne sait pas trop quel modèle d'école on veut aujourd'hui. Je ne parle pas comme mon nom, je parle encore une fois au nom de nombreux professeurs de qui je reçois de plus en plus de témoignages, ceux qui ont les élèves à longueur de journée, à longueur de temps et à longueur d'année, ils veulent un seul modèle, celui qui fait réussir leurs élèves. Je voudrais qu'on reparle du bon sens, on a parlé de pragmatisme. Retour au bon sens, je vais reprendre un autre exemple qui ne me concerne pas, c'est l'exemple des langues vivantes. On a mis les deux langues vivantes en cinquième. Alors, les élèves apprennent déjà l'anglais en primaire. Hein, on a dit, il faut que tous les élèves, parce qu'avant, on avait un système de classe européenne qui était un système très élitiste, qui était réservé, soi-disant, aux meilleurs élèves et aux élèves de niveau de catégorie socio-professionnelle un peu élevée. Donc, on a décidé de mettre les deux langues vivantes pour tous les élèves en cinquième. Et aujourd'hui, on a des professeurs qui disent, mais aux professeurs de français, mais reprenez ma demi-heure, mon heure de langue là, parce que moi j'aimerais bien que mon élève sache conjuguer le verbe être en cinquième, avant que je puisse avec lui travailler le verbe être en anglais, le verbe être en espagnol ou le verbe être en allemand. Voilà où on en est. On a des
donc
programmes.
Ça veut dire que pour vous, par exemple, en permettant à davantage d'élèves d'avoir accès à ces langues vivantes, ça contribue à faire baisser peut-être le niveau.
C'est, mais non, ou parce on que ne ces prend élèves pas ne en sont compte. Pas prêts. On veut faire la même chose pour tout le monde, sans prendre en compte la difficulté de certains élèves. Sous prétexte de démocratisation et d'égalité, on veut offrir exactement la même chose aux élèves qui ont des besoins qui sont fondamentalement différents. Aujourd'hui, et là je regrette, c'est une question de bon sens, c'est une question d'aller dans les établissements, de vivre et de voir des élèves qui arrivent au collège et qui ne savent pas correctement s'exprimer, qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Moi, j'ai des élèves, je fais de l'aide au travail. J'ai des élèves qui me demandent de l'aide sur des exercices de mathématiques. Pas parce qu'ils ont des problèmes de notion de mathématiques, parce qu'ils ne comprennent pas la consigne en mathématiques.
Et est-ce que vous considérez, juste avant de redonner la parole à Michel Lusseau, Isabelle Dignocourt, que si ces élèves-là arrivent au collège en n'étant pas suffisamment armés du point de vue de ce qu'on appelle les fameux enseignements fondamentaux, enfin en tout cas les fondamentaux, lire, écrire, compter, c'est comme ça en tout cas que les présente le ministre de l'Éducation oui. nationale, c'est aussi parce que il y a des programmes, il y a peut-être aussi des injonctions qui sont faites aux enseignants qui ne permettent pas de former correctement tous les élèves, par exemple en primaire.
Oui. Concrètement, un autre témoignage aussi, hein, du fait que, par exemple, les élèves aujourd'hui ont une multitude au primaire, ils ont une multitude d'activités, on va dire, extrêmement intéressantes. On a des élèves par exemple, alors c'est vrai que les sujets d'actualité aussi changent et évoluent. Donc on a des élèves qui vont aujourd'hui étudier la consommation, le tourisme, l'éco-quartier, le tri sélectif. C'est extrêmement important, on est tous d'accord que l'environnement c'est extrêmement important. Mais en primaire, effectivement, ils vont travailler là-dessus, ce qu'on faisait pas auparavant. Alors, La question
ça se fait au détriment des enseignements fondamentaux.
Forcément, puisqu'on a toujours le même volume horaire et même pas. On a un volume horaire qui a tendance à baisser parce qu'on fait partie des pays où les enfants vont le plus à l'école. Donc, on le baisse ou on l'organise différemment. Et nos élèves ont de plus en plus de choses à apprendre. Je refuse aussi qu'on dise, on entend quelquefois des gens dire, ah oui, mais alors c'est qu'ils sont plus bêtes qu'avant parce qu'avant, nous, on savait. Mais non, ils sont pas plus bêtes qu'avant. On leur demande tellement de choses, et les professeurs des écoles, c'est pareil. On leur demande tellement de choses différentes dans un volume de temps qui est toujours plus restreint. Comment peuvent-ils s'en sortir ?
Michel Lussault.
Cette question est une question évidemment importante. Je ferai remarquer deux choses. On sait qu'en France, il y a un problème en matière d'organisation du temps de travail des élèves. Les élèves ont effectivement un nombre substantiel d'heures dans l'année, mais ils ont surtout une répartition de ces heures qui est assez médiocre. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une erreur que le ministre ait proposé à certaines municipalités de revenir à la semaine de 4 jours, parce que l'intérêt de la semaine de 5 jours, et ça avait été bien montré par tous les observateurs, c'est que ça la permettait justement de programmer 5 demi-journées, les 5 matinées consécutives, consacrées notamment à la répétition d'exercices en matière d'apprentissage de la langue et du calcul. Parce que ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'un élément clé dans l'apprentissage des élèves, c'est la répétition des exercices. Et la meilleure rythmicité, en quelque sorte, de l'exercice sur une semaine de 5 jours est un avantage comparatif énorme par rapport à la semaine de 4 jours. Moi, je pense que les élèves ne travaillent pas suffisamment dans la semaine et je ne suis pas sûr que les décisions qui viennent d'être prises vont dans le bon sens. Je pense également que nous avons en France un problème qui est là un problème culturel. Concernant l'apprentissage des langues, je me demande comment apprennent leur langue maternelle les pays où il y a également des allophones en grand nombre et qui sont de surcroît confrontés au bilinguisme très précocement. Je me demande comment ils font. Parce que en Suède, par exemple, le bilinguisme est courant dès l'école primaire. Et les Suédois sont parfaitement maîtres de leur langue maternelle et ils sont parfaitement maîtres de l'anglais. Je pense qu'en France, nous avons un problème. Vous prenez un exemple qui est intéressant. Il nous semble que la langue étrangère doit être un outil aussi pour comprendre les structures grammaticales de sa propre langue. L'intérêt de la grammaire des langues, parce qu'autrement, pourquoi ferait-on des langues anciennes ? Les langues anciennes, elles permettent aussi de mieux comprendre la syntaxe et le vocabulaire, y compris...
Ça, Isabelle Dignocourt ne va pas vous contredire,
oui.
J'imagine.
Donc, c'est bien aussi ce terrain d'exercice-là.
Je peux expliquer quel est le problème aujourd'hui.
Oui, mais c'est aussi ce terrain d'exercice-là. Pourquoi en serait-il différemment des langues étrangères ? Moi, je pense que c'est un formidable acquis que de commencer les langues étrangères. Plutôt, ce que je regrette, c'est qu'on en fait un problème alors que ça pourrait être justement un tremplin.
Alors, réponse d'Isabelle Dignocourt.
Le bilinguisme tel que vous le proposez, c'est absolument pas la même chose. Pourquoi certains autres pays, vous prenez les pays nordiques, pourquoi les enfants réussissent à apprendre de langues extrêmement tôt ? Mais c'est simple, c'est aussi une question de culture. C'est que dans ces pays-là, les dessins animés ne sont pas, ils ne sont pas doublés. Aujourd'hui, nos élèves n'ont pas accès, si ce n'est qu'à l'école. À l'école, on est dans le cadre d'un apprentissage. C'est absolument pas la même chose que d'être baigné dans le bain linguistique. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs, justement, avec les enfants qui ont des parents d'origine européenne différents et dont on se rend compte qu'il n'y a effectivement aucun problème sur le fait d'être sur une langue et sur une autre. C'est un bain linguistique qu'on ne peut pas offrir à l'école.
Organisons le bain. Les élèves français sont aussi immergés dans
rythmes.
Un bain plurilingue.
Ben voilà, les rythmes, je veux bien en parler aussi avec vous. Effectivement, c'est valable d'avoir le temps, et les professeurs ne réclament que ça, les professeurs des écoles, d'avoir le temps de pouvoir répéter et systématiser. Mais on ne peut le faire qu'avec des enfants qui ne sont pas fatigués. Pourquoi ça fonctionne dans d'autres pays, puisqu'on prend toujours les exemples dans d'autres pays où effectivement on a des journées plus courtes ? Eh bien tout simplement parce que la société est adaptée. Je l'explique dans mon livre et je reprends cette explication. Dans ces pays, il y a une adaptation de la société, il y a une adaptation de l'industrie, il y a une adaptation du monde du travail qui fait que des parents peuvent aller chercher leurs enfants beaucoup plus tôt à l'école. Aujourd'hui, on s'est retrouvé sur des journées extrêmement longues pour les enfants, avec une demi-journée supplémentaire, un matin levé tôt, des parents qui devaient lever plus tôt parce qu'ils devaient aller travailler des enfants en garderie. Et aujourd'hui, et on a des enfants qui, quand ils subissent ce rythme avec le mercredi qui a été rajouté, ne sont plus capables d'apprendre et de répéter le jeudi ou le vendredi.
Donc tous les modèles ne sont pas importables, il faut aussi que la société soit adaptée plus largement et ça ne passe pas que par des réformes de l'école. Question de Guillaume Goubert, ce sera peut-être bien la dernière ou pas loin?
C'est la question des moyens, parce que finalement on n'en a pas du tout parlé, ce qui est assez inhabituel en France et sur ce sujet-là. Isabelle Lignocourt, est-ce qu'il y a des problèmes de moyens dans l'éducation nationale, des problèmes d'effectifs,
alors,
d'enseignants?
Les problèmes de moyens, c'est extrêmement compliqué pour moi, parce que je me suis rendu compte, alors je suis un petit peu fâchée avec les chiffres, hein, donc je les ai absolument pas retenus, mais quand j'ai fait des recherches pour mon livre, je me suis rendu compte qu'il y avait un budget absolument faramineux dédié à l'éducation nationale. Je pense que c'est le premier budget on a du mal à comprendre où il s'en va. Et puis, quelquefois, en creusant un petit peu, on se dit « Ah bah oui, quand même ». Et là, je me permets, je regarde mes notes parce que les chiffres, voilà, je les retiens pas. On a dépensé 72 millions pour la formation continue en 2016. La formation dont j'ai expliqué, on entendait des choses.
Vous n'êtes pas contre la formation continue?
Je ne suis pas contre la formation continue, mais quand c'est une formation continue qui nous dit il faut que vous fassiez ça, parce que ça, c'est bien, et puis si vous n'êtes pas d'accord, vous faites autre chose. Quand c'est des formations où on nous dit il ne faut travailler que de cette manière-là, parce que l'ancienne manière ne vaut plus le coup, et je peux vous assurer que c'est des choses qui ont été dites et redites, et que je pourrais multiplier, mais on n'aurait pas assez d'émissions, multiplier les exemples qu'on a eus de ce type de discours qu'on a pu nous tenir. Alors, je veux bien entendre que là où on n'est pas responsable de tout ce qui se passe en bas, mais il faudrait quelquefois voir ce qui se passe, vraiment. Et quand on parle de respect des enseignants, etc., je vois l'UNESCO, eh bien, le premier respect, ce serait peut-être de nous croire quand nous, sur le terrain, on dit il y a quelque chose qui ne va pas, et on nous l'a dit, et c'est vrai, et on l'a vécu.
Michel Dussault.
Oui, vous l'avez sans doute vécu, mais je ne pense pas que ça soit la loi générale de la formation, et je pense qu'il est très important de développer les budgets de formation continue des enseignants, parce que je crois que les enseignants ne se forment pas suffisamment tout au long de leur carrière.
Oui, d'ailleurs, c'est 72 millions d'euros, c'est peut-être pas si énorme que ça.
Madame, les enseignants, encore une fois, sont formés au niveau du master, c'est-à-dire au niveau de l'ingénieur. Les enseignants sont capables d'esprit critique. S'ils ne sont pas capables d'esprit critique, et s'ils prennent la formation d'une manière stéréotypée ou sans avoir la capacité d'en débattre, eh bien c'est dommage, mais moi je fais confiance aux enseignants pour être capables d'utiliser les formations qui leur sont données. Nous sommes, encore une fois, un des pays où l'on consacre le moins d'argent pour la formation tout au long de la vie des enseignants. Cette formation, elle est indispensable, elle est obligatoire dans beaucoup de métiers. On comprendrait mal qu'un médecin n'ait pas une obligation de formation tout au long de sa carrière. Je ne vois pas pourquoi.
Vous voulez dire qu'il y a des réticences dans le corps enseignant pour accepter
mais
ces formations?
Mais parce que très souvent, encore une fois, alors moins dans l'école primaire, mais très souvent en collège et en lycée, on confond la professionnalité avec la maîtrise de sa discipline d'origine. La professionnalité d'un enseignant n'est pas réduite à la maîtrise de sa discipline. Je pense que nous avons aussi un problème de culture professionnelle, qu'il faut faire évoluer les cultures professionnelles et qu'il faut faire évoluer les cultures professionnelles à partir d'une activité de formation. Cette activité de formation, elle doit être construite différemment d'aujourd'hui. Elle doit être construite à partir, et là je serais bien d'accord avec vous madame, elle doit être construite à partir des besoins concrets des enseignants. Mais une activité de formation professionnelle digne de ce nom est une activité qui fait bouger les pratiques. Si une activité ne fait pas bouger les pratiques, si une activité de formation ne remet pas en question les modèles que l'on a avant d'être formé, alors ça veut dire qu'elle ne sert à rien. Je pense que les enseignants n'ont pas à avoir peur d'évoluer dans leurs pratiques professionnelles et qu'ils peuvent faire confiance à la formation continue pour ça. S'ils ne sont pas contents de la formation continue, qu'ils se manifestent pour qu'elle évolue. Et c'est très bien si elle évolue. Mais je ne pense pas qu'on puisse condamner la formation de cette manière.
Est-ce que vous avez peur, vous, Isabelle Dignecourt?
Est-ce que vous pensez que c'est normal
non.
pour un professeur des
pas,
écoles
là.
Je me permets, parce que vraiment, est-ce que vous pensez que c'est normal pour un professeur des écoles qui va former nos enfants à la lecture, que sur sa formation, vous parlez d'un master, master 2, que sur sa formation de master, il n'ait que 5 heures de didactique, d'apprentissage de
oui,
la
mais
lecture.
Madame, là c'est autre chose. Là vous déplacez le terrain, et ça c'est un
je
terrain
parle
que
de
je...
formation
Mais non,
encore.
Vous parlez de formation initiale en l'occurrence. Ça n'est pas la même chose. Et pardonnez-moi, mais en tant qu'ancien président d'université, vous venez sur un terrain que que je connais parfaitement, puisque vous réclamez qu'on reconnaisse votre expertise, alors croyez-moi, vous devriez respecter la mienne. La formation initiale des enseignants aujourd'hui est à reprendre. Je suis depuis longtemps un militant acharné de la reconstitution de premiers cycles spécifiques pour les professeurs des écoles et pour les professeurs de collège, parce que je pense qu'on n'apprend pas suffisamment justement les matières fondamentales. Mais de grâce, ne mélangeons pas tous les dossiers. La formation continue, c'est un autre dossier que celui de la formation initiale.
Juste un mot, et vraiment un mot de conclusion, Isabelle Dignaucourt. La conclusion, c'est peut-être par exemple de lire votre livre. Hein, on pourrait conclure l'émission comme ça.
L'éducation nationale, voilà. Les problèmes liés au bon sens.
L'éducation nationale, une machine à broyer, c'est donc le livre que vous signez aux éditions du Rocher qui a été publié il y a quelques semaines. Merci à vous, merci beaucoup Michel Dussault d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez réécouter sur France Culture, que vous pouvez aussi compléter en lisant les interviews auxquelles vous avez répondu l'un et l'autre dans le journal du jour de La Croix, représenté comme chaque mois par Guillaume Goubert. Merci également à toute l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Eva Pellerin, Virginie Le Duo, Fanny Richer, Antoine Dulster, émission réalisée par Alexandra Longuet, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.